Vous écoutez CFM, c'est l'édition des Voix de l'Alma pour le mois de mai, avec autour de la table Jacques Griffaut, bonjour Jacques.
Bonjour.
Caroline Berthelot de La Femme Renard, bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Bernadou de la librairie de Loche, bonjour.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous tout le monde avec ce printemps?
Parfaitement bien.
Tout le monde un peu
franchement.
Je dis ça pour que tout le monde est un peu enrhumé, donc on risque d'entendre quelques bruits parasites pendant cette émission. L'auteur du mois nous est présenté par Philippe Bernadou. Il s'agit de Yanis Ritsos.
Yanis Ritsos, qui, pour ceux qui s'auraient échappé, est un des plus grands poètes du XXe siècle. Il est grec. Il faudrait peut-être dire qu'il est la Grèce, comme Garcia Lorca et l'Espagne, et Neruda et le Chili, par exemple. À la fin des années 60, alors qu'il est assigné à résidence par la dictature militaire qu'on a appelée celle des colonels, il écrit ceci qui résonne aujourd'hui tellement fort. Ne pleure pas sur la Grèce. Quand on croit qu'elle va fléchir, le couteau contre l'os et la corde au cou, la voici de nouveau qui s'élance, impétueuse et sauvage, pour harponner la bête avec le trident du soleil. Ritsos, pour moi, c'est trois choses. Le terreau de sa personnalité, de son écriture, c'est une enfance massacrée. Il est issu d'une lignée de propriétaires terriens aisés. Son père a dilapidé la fortune familiale au jeu et dans la boisson. Sa mère devient folle et meurt bientôt. Son frère aîné meurt de tuberculose, maladie que Ritsos contracte aussi et qui l'accompagne toute sa vie. C'est une litanie qui est malheureusement assez familière à des portraits que je vous livre chaque mois. Ce qui fait un poète ou un écrivain, c'est rarement la cuillère d'argent dans la bouche. La deuxième ligne de force de la vie de Ritsos, c'est son engagement politique et plus particulièrement communiste. Il a fait partie de cette longue cohorte d'écrivains qui ont cru au lendemain qui chante. Et quand on a connu le nazisme, le dictateur Metaxas s'était allié avec Hitler et la dictature militaire a donc des colonels, on peut avoir rêvé d'un avenir meilleur. Jusqu'à sa mort en 90, il a 81 ans, il sera resté fidèle au Parti communiste avec obstination, je dirais avec aveuglement, lui qui a jalonné ses poèmes de figures d'aveugles énigmatiques. Le troisième pilier de ce qu'est Ritsos, c'est l'endroit où il est né, Monemvasia. J'arriverai certainement mal à vous faire comprendre ce qu'est Monemvasia. C'est un promontoire, une colline posée sur la mer, reliée à la côte par un unique cordon de terre. Monemvasia, ça veut dire monoemvasia qui n'a qu'une issue. Quand on vient de la côte, on ne voit que ça, des cailloux et de l'herbe jaune qui dépassent de l'eau. Il faut contourner la presqu'île pour découvrir, face à la mer, un village médiéval, un peu comme Bruniquel, pour prendre un exemple local, un village médiéval blotti au pied d'une forteresse vénitienne. C'est un lieu isolé à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est un lieu d'éternité. Et si la plus grande partie des poèmes de Ritsos est une réactualisation des mythes grecs, des grandes hôtes qui revisitent, Phèdre, la guerre de Troie, la belle Hélène, j'en passe, certainement, est-ce parce qu'il a vécu à Monemvasia la jonction de l'histoire et de la vie. Les éditions Bruno Doucet, dont je ne dirai jamais assez de bien, publient un inédit de Yanis Ritsos en bilingue, grec-français, Symphonie du printemps. C'est un magnifique chant vital, écrit par un jeune homme de 28 ans, malade, ruiné, et dont le livre précédent avait été brûlé par la dictature. Une célébration du monde qui est la preuve du pouvoir de transfiguration de la poésie, surtout quand elle est pratiquée par un poète aussi puissant que Yanis Ritsos. On peut aussi trouver une anthologie en poésie Gallimard, ça s'appelle « Le mur dans le miroir », et donc « Symphonie du printemps », Yanis Ritsos, chez Bruno Doucet.
Merci Philippe Bernadou. Caroline Berthelot, c'est à vous que l'on doit le premier coup de cœur aujourd'hui. De qui s'agit-il?
Alors, il s'agit de Zirana Zateli pour son roman « Le vent d'Anatolie », publié aux éditions Kidam. Je n'avais jamais lu de livre de Zirana Zateli, je n'en avais même jamais entendu parler, de cette femme grecque qui a pourtant écrit plusieurs romans déjà. Et là, je ne sais pas si c'est le titre, le chat bleu qui trône sur la couverture ou simplement le hasard. Toujours est-il que je me suis retrouvée avec ce vent d'Anatolie dans les mains, je l'ai ouvert et je ne l'ai refermé qu'une fois fini. Alors le livre est court, d'accord, puisqu'il fait à peine 50 pages, un tout petit peu plus, mais il est surtout envoûtant. Il s'agit d'une longue nouvelle qui confronte une fillette un peu étrange à une vieille dame qui l'est tout autant, si ce n'est plus. Anatolie, c'est le charmant nom de cette vieille dame, vit recluse dans une petite maison au fond d'une ruelle avec pour seule compagnie quelques chiens et chats errants, des narcisses mauves et des coquelicots. Elle est malade, gravement malade même, et de cette maladie sans nom, mais que l'on devine, on ne saura à la lecture que la toux, les rubis de sang qui sortent de sa bouche parfois, et une mort annoncée, mais qui pourtant se refuse à venir la prendre pour l'emmener avec elle, et ce depuis des années. Alors depuis des années, elle vit solitaire, car les voisins et le village ont peur d'elle, de sa maladie plutôt. Mais pour autant, les habitants prennent soin d'Anatolie, envoyant chaque jour quelqu'un porter à Anatolie une assiette de bouillie sur son rebord de fenêtre, puisqu'il n'est pas question de l'approcher pour ne pas attraper sa maladie. Un jour, c'est cette fillette qui va la porter, cette assiette, et vous vous en doutez, elle ne va pas déguerpir sitôt l'assiette posée, elle va rester. C'est sa voix à elle qui nous parle pendant ces 50 pages et qui va nous raconter l'apprivoisement des deux, progressif, à la fois amour et haine, attirant ses répulsions. On passe de visite en visite à des scènes de colère et de complicité, charmées par la poésie et le magnétisme des mots de Zirana Zateli. Le vent d'Anatolie, c'est bien sûr celui qui doit l'emporter. L'issue est inéluctable, mais c'est aussi un délicieux moment de lecture et la rencontre avec deux personnages énigmatiques qui finissent par en être magiques. Une fois le livre refermé, j'ai laissé le vent d'Anatolie souffler tout autour de moi quelques instants encore, et je vous invite à faire de même.
Merci Caroline Berthelot pour La Femme Renard. Jacques Griffo, c'est un livre, c'est un magazine que vous nous présentez, une revue.
Oui, c'est une revue, oui, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de pousser un coup de gueule, un vrai coup de gueule, parce que j'en ai marre. J'en ai marre de la dictature du court terme. J'en ai marre de tous ces gens qui ne pensent qu'à ce qui va se passer dans les 3 mois à venir, dans les 6 mois à venir, etc. Alors que, là-dedans j'inclus bien sûr les politiques aussi, qui semblent très accaparés par le règlement des crises pour travailler sur du long terme. Alors que, moi je crois qu'il faudrait se demander sur quoi on va aller, sur quoi nous voulons surtout aller dans 20 ans. Et je crois qu'on devrait être beaucoup plus visionnaire. Il n'y a pas de doute, on est en train de vivre sans doute les dernières années d'un monde, mais vers quoi allons-nous ? Alors, je trouve une revue qui s'appelle « Oui, demain », « Oui, W-E ». Oui, c'est « nous » en anglais, mais c'est aussi la sonorité, c'est aussi « Oui » au « Oui ». Donc « Oui, demain », je trouve que le titre est pas si mal. Et le sous-titre, c'est une revue pour changer l'époque. Et j'ai trouvé dedans des articles intéressants, car c'est une revue qui veut non seulement, en quelque sorte, contribuer au décodage des bouleversements en cours, être le support des remises en question, des initiatives innovantes qui ont lieu là où, ici ou là, mais qui veut permettre, et ça c'est un objectif ambitieux sans doute et assez optimiste, c'est pour ça que je trouve ça très stimulant, elle veut essayer de retourner en quelque sorte à l'avantage de l'humanité, c'est-à-dire de nous tous, la crise sans précédent qu'on vit depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est encore une fois, c'est très ambitieux, mais je trouve que il y a dans cette revue, qui encore une fois s'appelle « Oui, demain », de nombreux sujets de réflexion. Elle s'ouvre sur un article de Jeremy Rifkin. Alors, Jeremy Rifkin, c'est un essayiste américain qui est né en 1945, qui est spécialiste de prospective. Prospective à la fois économique et scientifique. Et qui vient de publier un livre qu'on trouve en librairie qui s'appelle « La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde ». Il y a un long article de lui, il y a 6 pages tout de même, donc c'est pas simplement une toute petite chronique. Pour lui, le diagnostic est assez clair. Il nous dit le présent le présent se meurt. Et pourquoi le présent se meurt-il ? Parce que on a atteint un pic de production pétrolière, les prix du pétrole vont monter, alors les prix montent, c'est la panne, on avance toujours sur le même cycle, croissance, puis crack, croissance, crack, etc. Et dans le même temps, eh bien, la Terre se réchauffe inexorablement de matière terrifiante. Il ajoute que le temps ne joue plus en notre faveur, qu'il faut absolument agir, et qu'on a besoin d'une nouvelle vision économique pour la planète. Et il pense qu'il y a la possibilité, grâce à Internet aussi, qui sera la partie communication de cette révolution, d'arriver à une troisième révolution industrielle. Alors, il ajoute, et je trouve que c'est un point essentiel de son raisonnement, qu'il a grandi dans un monde fait d'énergie centralisée, mais qui était distribué du sommet de la pyramide vers sa base. Tout était centralisé, les communications aussi étaient centralisées. Et ce qui est intéressant avec Internet, dit-il, c'est que c'est un système distribué et collaboratif. L'échelle n'est plus verticale, mais horizontale. Elle est latérale. Tout le pouvoir est de pair à pair. C'est un grand bouleversement des consciences. Et qu'est-ce que cela a pour conséquence ? Eh bien déjà, par exemple, depuis plusieurs années, dit-il, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, on assiste à des convergences, Internet se fond avec les énergies renouvelables qui sont distribuées de manière collaborative, c'est-à-dire de manière horizontale. et il pense qu'un pouvoir latéral, c'est la seule manière de gérer les énergies distribuées. Alors c'est quoi ces fameuses énergies distribuées ? Ben, c'est ce à quoi vous pensez, c'est-à-dire c'est les énergies qu'on trouve sur chaque centimètre carré du globe, c'est le soleil, le vent, l'énergie géothermique, c'est qui consiste à tirer de l'énergie, de la chaleur emmagasinée dans le sous-sol, les déchets issus de l'agriculture, etc. Alors, Yves, je vous en dis pas plus, je vous dis simplement qu'il va baser cette révolution industrielle sur 5 piliers et que il reste très optimiste concernant le futur. Dans le même temps, j'avais lu dans TGV Magazine, qui est un magazine qu'on trouve dans le TGV, une petite chronique de Edgar Morin qui parlait du développement durable et il disait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, que il y a des choses qui doivent être même en croissance. Il y a beaucoup de gens qui font l'apologie de la décroissance, mais lui, Edgar Morin, dit non, il y a des choses qui doivent être en croissance et d'autres en décroissance. Qu'est-ce qui doit être en croissance? Eh bien, c'est l'économie verte, sociale et solidaire, c'est l'agriculture fermière et écologique. Par contre, il faut faire décroître l'économie du jetable, l'économie nocive des boissons sucrées, par exemple, qui rendent nos enfants obèses, etc., etc. Donc voilà une revue, oui, demain, qui, la revue n'est pas parfaite, elle coûte 12 euros, il y a tout de même plus de 200 pages, et je trouve que c'est une revue qui permet d'asseoir une réflexion intéressante sur un monde en devenir.
Merci Jacques Griffaut. Philippe Bernadou, je me tourne vers vous pour un coup de cœur dont on va parler sur CFM avec l'auteur prochainement.
Avec l'auteur qui est Léonore de Recondo, qui, pour la petite histoire, est une violoniste virtuose et qui travaille entre autres avec l'orchestre baroque de Montauban, Les Passions. Léonore de Recondo est petite fille de réfugiés républicains espagnols. Elle a voulu retrouver ce qu'a vécu sa famille entre 1936 et 1950 en restant au plus près de leur vie quotidienne. Il y a l'abandon de la maison du Pays Basque, il y a le passage à la Bidasoa, la vie de métayer dans une ferme des Landes. L'originalité, c'est que tout ça n'est pas vu par les yeux des héros. On aurait pu, par exemple, penser aux oncles engagés contre le franquisme puis contre le nazisme, qui sont des figures fortes. Mais c'est vu par les yeux de ceux qui n'ont d'ordinaire pas de voix, à la fois la mère, qui s'appelle Ama, belle figure matriarcale, dont le journal s'intercale dans le récit, et les trois enfants, qui ont autour d'une dizaine d'années, qui vivent ces années-là avec leur candeur et leur envie d'être aimés. D'être aimés de leurs parents comme de leurs nouveaux camarades qui les rejettent un peu. Il y a dans la façon de raconter l'histoire de sa famille qu'a Léonore de Recondo une musique, un vibrato, pour employer un terme musical, émouvant et qui est à la fois chaleureux, pétri de simplicité et d'humilité, on pourrait dire. Nous avons été tellement séduits par ce roman que nous avons souhaité vous faire rencontrer l'auteur. On le rappellera tout à l'heure, ce sera samedi 5 mai à 15h à la Cavalière. Léonore de Recondo, Rêves oubliés, et c'est publié par Sabine Vespizer.
Merci Philippe Bernadou. Caroline Berthelot, un autre coup de cœur s'il vous plaît.
Oui, il s'agit d'un roman américain, Le sillage de l'oubli, de Bruce Machart aux éditions Gallmeister. Alors c'est un roman autour duquel je tournais déjà depuis quelque temps. J'étais attirée par la couverture magnifique, comme l'éditeur Gallmeister sait le faire bien souvent, et aussi parce que Gallmeister nous a déjà offert quelques pépites à nous lecteurs, telles que Le gang de la clé à molette de Edward Hebei ou encore Second Island de David Vann. Là, il s'agit d'un premier roman, Le sillage de l'oubli, qui était précédé avant même sa sortie de très beaux articles critiques, et qu'on retrouve d'ailleurs des extraits de ces articles critiques sur le bandeau de couverture. Premier roman éblouissant selon le New York Times, roman choc selon les Un Rock, etc. Bref, tout un programme, et c'est avec un peu d'appréhension que je l'ai commencé. Alors, pour tout vous avouer, je n'ai pas encore terminé, puisque je l'ai commencé hier soir, et me tarde déjà à la fin de l'émission pour me plonger de nouveau dedans, et retrouver Vaclav et ses fils, et l'univers de Bruce Machart. Alors, nous sommes au Texas, en 1895. Le livre s'ouvre sur une scène assez terrible, où Clara, la femme de Vaclav, meurt en mettant au monde leur quatrième garçon, Karel. Dès lors, l'univers de Vaclav s'écroule, et en même temps, parce qu'il faut bien tenir debout, et s'occuper des siens, toujours, Vaclav puise une force folle dans cette perte. Tout son quotidien et sa vie vont alors être consacrés à ses quatre garçons et à ses chevaux de course, ainsi qu'au pari qu'il va lancer peu à peu contre les voisins pour conquérir toujours plus de terrain. On est dans un univers rude, extrêmement puissant, masculin, qui pour moi n'est pas sans rappeler certains romans de William Faulkner, ou que l'on pourrait encore rapprocher de Cormac McCarthy. On va suivre, au gré des courses, des affrontements et des épreuves de la vie, la saga de ce clan d'hommes jusqu'en 1924, et la saga est toujours portée par une écriture extrêmement belle et maîtrisée. Un souffle lyrique porte certaines scènes du roman magistralement et nous fait vibrer et faire corps avec les personnages, y compris dans les scènes extrêmement âpres ou violentes. Bref, c'est une lecture qui ne laisse pas le lecteur indemne, je suis encore un petit peu KO et je vais y retourner, tellement on est pris dans l'histoire. Il me tarde de me remettre en piste avec les garçons. Une dernière chose, et pas des moindres, Bruce Machart, texan qui vit dans le Massachusetts, nous fait l'immense honneur de venir à la Femme Renard pour une rencontre exceptionnelle. Ce sera le mardi 22 mai à 19h. Ne ratez pas l'occasion de venir le rencontrer et précipitez-vous tout de suite sur son roman. Ça s'appelle Le Sillage de l'oubli. C'est chez Gallmeister et c'est magistral.
Merci Caroline. Jacques Griffaut, encore un coup de cœur s'il vous plaît.
Oui, le livre s'appelle Arrêtez-moi là, c'est un livre de Yann Levison. Le narrateur est chauffeur de taxi. Un jour en fin d'après-midi, dans un aéroport, monte dans son taxi une jolie blonde en tailleur marron. De laquelle se dégagent des effluves de parfums de luxe. Elle va à Westboro. C'est à une bonne demi-heure de là. La course est sans encombre. Le compteur à l'arrivée marque $58. Elle a que $50. Elle lui propose donc d'entrer une seconde chez elle pour qu'elle aille chercher de l'argent. Elle monte à l'étage. Il entend, lui, les tourées de chaussée. Il entend une communication téléphonique tendue, agressive. Il attend, il jette un coup d'œil, il entre dans une salle de jeu, le sol est jonché de jouets, il remarque une ligne bleue caractéristique en haut des vitres. Pourquoi ça? Parce que 12 ans auparavant, avant de faire taxi, il posait des fenêtres. Il va reconnaître là un des produits de la société qu'il employait, il touche la fenêtre. Ce qu'il ne faut jamais faire, apprendra-t-il trop tard. En sortant de là, avec ses $58, il prend en charge gratuitement, c'est le soir, il est tard, c'est la nuit même, gratuitement deux étudiantes, dont l'une est chancelante sous l'effet de l'alcool, pour les conduire à la résidence universitaire qui est à 1 kilomètre de là. Elle va vomir, l'une d'entre elles va vomir affreusement dans son taxi. Il rentre au garage des taxis, il lave le siège arrière au jet, puis à la vapeur, pour chasser les odeurs. Il apprendra trop tard qu'il ne faut jamais nettoyer son taxi à la vapeur après avoir touché les fenêtres d'une inconnue. Car le surlendemain se présentent chez lui trois hommes, un flic en uniforme et deux types en civil, l'air très grave. Pas d'explication, allez, on va aller parler au poste. Et là, il est accusé d'avoir kidnappé une petite fille, la fille de cette dame qu'il a conduit en taxi chez elle l'autre jour. Alors, il n'y a aucun problème, on a retrouvé ses empreintes sur la fenêtre ouverte, il a nettoyé son taxi à la vapeur le soir même où il est accusé d'avoir transporté un enfant kidnappé. Donc pour les flics, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors lui, il n'est pas trop inquiet au début, il est persuadé que tout va se résoudre, il fait confiance au système. Mais très vite va commencer pour lui un véritable cauchemar, il va très vite avoir les raisons de perdre son optimisme, il est mis en prison, il va être même mis dans le couloir de la mort parce que c'est l'endroit le plus sûr où le mettre. Il paraît que les kidnappeurs tendent à rencontrer des difficultés avec la population carcérale ordinaire. On a donc trouvé là un moyen de le protéger en lui donnant une cellule personnelle dans le couloir de la mort. Voilà. Je vous en dis pas beaucoup plus. C'est un livre coup de poing dans lequel l'auteur de Un petit boulot, Tribulation d'un précaire, dénonce à la fois les dérives de l'Amérique contemporaine et de son système judiciaire. C'est terrifiant.
Arrête-moi là, de
Yann Levison.
Merci Jacques Griffaut. Philippe Bernadou, une lecture maintenant, s'il vous plaît. Le temps que vous vous prépariez, je vais pouvoir redonner d'abord le nom de votre site internet, celui des libraires de l'ALMA, c'est librairiemontauban.fr, avec un S à librairie. Et je vais rappeler aussi que les podcasts de cette émission sont écoutables sur le site cfmradio.fr. Alors, c'est une lecture en liaison avec l'auteur du mois.
Oui, pour entendre la langue de Yanis Ritsos dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le dernier poème de Symphonie du printemps. Le jour se lève, la brume se retire, les choses durent brillantes et non démenties. Je ne sais combien de mois nous dormîmes. Oubliés, nous fûmes oublieux dans un éblouissement dense de nuit et de soleil. Je ne pleure pas parce que le sommeil m'a renié. Derrière notre jardin existent aussi d'autres jardins. La mort gravit échelon après échelon l'échelle qui mène au ciel. S'enfuit l'été, mais la chanson demeure. Pourtant, toi qui n'as pas de voix, où te réfugier à l'abri du vent? Comment accorderas-tu la lumière à la terre? Ouvre les fenêtres, qu'entre la lumière, l'indomptée rafale du vent, la laine âcre des montagnes grandioses. Regarde, l'inépuisable sourit devant les bras croisés. Délie les bras. Ouvre les fenêtres afin de voir l'univers en fleurs de tous les coquelicots de notre sang. Que tu apprennes à sourire. Tu ne vois pas? Dès lors que s'éloigne le printemps, derrière lui arrive un nouveau printemps. Le voilà, le soleil, par-dessus les cités de bronze, par-dessus les vertes terres en nos cœurs. Je sens aux épaules le fourmillement intense, alors que poussent, toujours plus jeunes et plus larges, nos ailes. Relève tes cils. Le monde resplendit hors de ta tristesse, lumière et sang, chant et silence. Mes chers semblables, comment pouvez-vous encore vous courber? Comment pouvez-vous ne pas sourire? Ouvrez les fenêtres. Je me lave à la lumière, je sors sur le balcon, nu, pour respirer à fond l'air éternel aux fortes senteurs de la forêt humide, au goût salé de la mer infinie. Le monde resplendit, infatigable, qu'il soit regardé.
Voilà, Yanis Ritsos. Merci Philippe Bernadou. On arrive maintenant eh bien à vos actualités et ça commence le 3 pour vous à la Femme Renard, Caroline.
Oui, tout à fait. Le jeudi 3 mai à 19h pour une rencontre avec un auteur espagnol, Alphonse Cervera, et une soirée spéciale Guerre d'Espagne.
Le 4, un vernissage.
À 19h, vernissage d'une exposition consacrée aux femmes et organisée par les Amis du Cercle de Bourdel.
Voilà, on quitte la Femme Renard et on va à la librairie de Loche. Philippe Bernadou, le 5.
Le 5, qui est un samedi après-midi, c'est un peu inhabituel comme horaire. À 15h, nous recevons donc Léonore de Récondeau pour Rêves oubliés, son roman chez Sabine Vespizer.
Une autre rencontre aura lieu le 10.
Le 10, il s'agit de Jean-Jacques Rouch, que les Montalbani connaissent bien, qui a écrit un roman qui s'appelle Jean le Cagot, maudit en terre d'oc chez Privas. Les Cagots, c'est une population des Pyrénées qui a été ostracisée, on ne sait pour quelle raison. Donc peut-être une réponse dans ce roman-là, jeudi 10 mai 2012 à 17h.
On revient à la Femme Renard le 16, Caroline Berthelot.
Oui, mercredi 16 à 17h30, la lecture mensuelle de la Compagnie des écrivains de Tarn-et-Garonne.
Le 18.
Le vendredi 18 mai à 19h, rencontre avec Henri Leuvenbruck et Fabrice Mazza autour de leur nouvelle série Sérum en 6 épisodes. Henri Leuvenbruck est un auteur de science-fiction très populaire.
Et puis quelques jours plus tard, une autre rencontre, le 22.
22, autre rencontre-événement avec Bruce Machard dont on a parlé tout à l'heure.
Philippe Bernadou, à la librairie de Loche, le 24, que se passe-t-il?
Le jeudi 24 mai à 17h, nous recevons Colette Berthès pour son nouveau roman Les Amants de Borde Rouge aux éditions de Boré.
C'est un ping-pong qui se fait entre la librairie de Loche et la Femme Renard. Le 25, Caroline.
Le vendredi 25 à 19h, on reçoit Franck Andria et Hervé Jubert, donc deux auteurs de romans pour adultes et pour ados.
Gardez la main parce que vous avez quelques rencontres à nous annoncer.
Oui, le mercredi 30, alors deux rencontres, une à Montauban à 19h avec Sylvie Durbecq, qui est à la fois auteur, poète et artiste. Et en même temps, à Lozère, dans le cadre du festival Place aux Nouvelles, rencontre avec Anna Rosen.
Et le 31?
Et le 31, du coup, Anna Rosen est à Montauban pour la soirée Place aux Nouvelles. Pour son roman, Je vous prête mes lunettes, qui est en lice pour le prix de la nouvelle de la Femme Renard, festival de Lozère.
Voilà, Place aux Nouvelles, Jacques Griffaut, ce sera bien le 9 septembre.
Alors, Place aux Nouvelles, ce sera le dimanche 9 septembre. Il y aura une trentaine d'écrivains ce jour-là. Il y a des nouveautés. Cette année, d'abord, nous avons un blog. C'est www.placeauxnouvelles.fr. Vous pourrez voir la liste des auteurs invités. D'autre part, on va faire aussi un prix à dos. Donc, on est en train de mettre en place un petit fascicule sur lequel il y aura 5 nouvelles à dos. On va les faire voter sur une nouvelle. Il y aura 6 nouvelles, en fait, pardon. Et il y aura aussi, le samedi soir, il va y avoir du slam aussi. Donc, c'est un programme très, très ouvert et plus éclectique que celui des années passées. Et je vous rappelle que le festival lui-même du 9 septembre, en amont, est précédé par 10 rencontres à la Femme Renard et à Lozère avec les 5 auteurs dont le recueil a été sélectionné pour le prix de la nouvelle de la Femme Renard, Lozère 2012. Ces 5 auteurs, vous pouvez les retrouver sur le blog dont je viens de vous parler.
Merci Jacques Griffaut. Allez, on arrive au terme de cette émission. Je vous demande de faire un petit tour de table pour nous représenter les ouvrages. On commence par vous, Philippe Bernadou.
L'auteur du mois, c'était Yanis Ritsos, une anthologie, Le mur dans le miroir en poésie Gallimard. Et la lecture, toujours de Yanis Ritsos, venait de Symphonie du printemps, publiée par Bruno Doucet. Et le coup de cœur, c'était Léonore de Récondeau, Rêves oubliés, chez Sabine Vespizer.
Caroline Berthelot.
Donc j'ai présenté Le vent d'Anatolie de Zirana Zateli, auteur grec, aux éditions Kidam éditeur, et Le sillage de l'oubli de Bruce Machart aux éditions Gallmeister.
Jacques Griffaut.
Une revue pour changer d'époque, le numéro 1 de la revue Oui, Demain, et puis un livre terrifiant de Yann Levison, publié dans la collection Piccolo chez Liana Levy, Arrêtez-moi là.
Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois, un bon printemps, et puis on se donne rendez-vous en juin.
Entendu, merci.
Au mois prochain.
Merci,
au mois prochain.
À bientôt.
Au revoir.
Yeah.